Le seul remède que j'ai trouvé contre le mal de mer, c'est de me concentrer sur un point fixe. Serré au fond de ma cabine, je forme des lettres sur du papier jaune, moins fatigant que le blanc. Après 12 ans de clavier en braille et de saisie vocale, mes yeux réapprennent l'écriture, mes doigts se réhabituent au stylo, et ma tristesse s'apprivoise à mesure que mes phrases donnent le change à un correspondant. Cher Monsieur Macaron, je ne sais si la maison Ladurée vous transmettra ce courrier, ni même si je l'enverrai, mais ce sont les premiers mots que j'écris à la main depuis mes 17 ans, et je voulais qu'ils soient pour vous. Parce que je vous dois le dernier moment de bonheur partagé avec mon chien, avant que la chirurgie me rende la vue et que Jules reprenne du service auprès d'un autre aveugle. Je ne vous ai pas assez remercié pour la manière dont vous avez pris sa défense à Orly. Au retour des vacances, je viendrai vous offrir un café. Bien à vous, Alice Gallien. P.S. Je me permets de vous rappeler votre promesse de faire pression pour que le parfum du moment nous revienne. Ayant pu apprécier votre autorité naturelle, je ne doute pas de pouvoir déguster bientôt, de visu, ces fraises Tagada dont j'aimerais vraiment retrouver la saveur. Je relis ma lettre à Macaron, perplexe, et je renonce à la recopier pour la 4e fois. Je me sens si peu lisible et si déchiffrable en même temps, trahi par cette écriture qui ne me ressemble plus. Autant reprendre mon journal intime, pour tenter de combler ces 12 ans de blackout, cette interruption qui n'est plus qu'un gigantesque entracte. Voilà que, feuille après feuille, je m'autorise à revisiter le passé, à le remettre en forme, moi qui ne vivais qu'à l'indicatif présent et au futur simple. Je revois ma vie d'avant le noir. Je renoue le fil. Je mesure le changement. J'essaie de fixer les émotions, d'exprimer l'essentiel, ma mère et mon chien. Étais-je heureuse avant l'accident, comme la psy me conseillait de dire à la place de viol? Je me laissais porter. Remonte-pente et rafting. Le monde de mon père, les pistes noires en hiver, les torrents en été, nos deux passions, nos deux talents. Ma vie tracée dans son sillage, compétition, enseignement. Il n'a pas supporté de me perdre. Moi, sa dauphine, son espoir de médaille olympique. Il lui restait mes frères, mais ils étaient tellement moins bons. Je me suis remise de mon drame, pas lui. Il me répétait en sanglotant, « Qu'est-ce que je peux t'apporter en dehors de l'entraînement ?» Maman a pris le relais. Elle m'a fait passer le bac. Elle a appris en même temps que moi le braille, la musique, le chant, la peinture, tout ce qui pouvait redonner du goût à la vie, assaisonner l'invisible. Elle a maintenu autour de moi une agitation incessante, une chaîne de solidarité sans apitoiement, une pression joyeuse. Elle a pris des amants pour me réconcilier avec les garçons. Elle a retrouvé ses 18 ans sous couvert de réparer les miens. Et c'était bien. Mais surtout, elle a fait des pieds et des mains pour m'obtenir un chien. Face à la liste d'attente désespérante, elle nous a inscrites comme famille d'accueil. On hébergeait des chiots sélectionnés par l'école d'Aise-Village, on les élevait dans une ambiance normale parallèlement à leur apprentissage de guide. Au bout d'un an, ils nous quittaient pour intégrer l'école à plein temps, ne repassant que le week-end pour la détente et le jeu, jusqu'au jour où, leur diplôme obtenu, ils étaient offerts à d'autres aveugles que moi. Et puis, un jour, l'un d'eux nous est revenu. Il m'était attribué. C'était Jules. Dire que ma vie a basculé quand l'éducateur a formé notre binôme est un euphémisme. Jusqu'alors, j'évitais de m'attacher trop fort à ces chiots en transit pour moins souffrir de leur départ. Le petit Jules l'avait senti, et il n'a donné libre cours à son amour d'enfance que lorsque l'école m'a confié à lui pour de bon. Avec une rapidité stupéfiante, il m'a réappris la rue, le bus, le train, la piscine, la mer, la luge, mais plus encore, il m'a entraîné à lire les images qu'il m'envoyait. La forme d'un obstacle, l'emplacement d'un escalier, la beauté intérieure ou la fausseté des gens que nous croisions. Il me transmettait mentalement son point de vue, son interprétation, en fonction de ce qui était bon pour moi. Quand je ne savais que penser, comment réagir, quelle décision prendre, il me soufflait, à l'oreille, par un changement de respiration, un son codé, ou bien par une information tactile, ou même, parfois, un message télépathique qui composait une scène, un paysage, un physique. C'était mon souffleur d'images. C'est grâce à lui et pour lui que j'ai voulu devenir une vraie peintre. Pour ces moments où il m'apportait ma palette entre ses dents, avant de pousser vers moi des tubes de couleurs pour me proposer des choix. Me sachant de bonnes pattes, maman a pu s'en remettre à lui, lâcher prise, s'occuper de sa maladie de Charcot, cette atrophie progressive du système musculaire qu'elle avait cachée à tout le monde. Mais c'était trop tard. Alors, nous avons inversé les rôles. Je l'ai aidé à accepter l'inéluctable, à surmonter la perte de l'autonomie qu'elle m'avait si bien rendue, à descendre avec douceur la pente qu'elle m'avait fait remonter. Jules m'a réveillé 10 minutes avant que le téléphone sonne pour m'annoncer sa mort. Quand on a dispersé ses cendres dans la baie des Anges, il a plongé à leur suite. Mon père et mes frères l'ont aidé à remonter dans la barque. Il a craché l'eau sur mes pieds, comme s'il me rapportait ma mère. Les larmes diluent les mots sur le papier jaune. J'enfouis la tête au creux du coude. Est-il heureux, mon Jules, dans sa nouvelle vie, avec sa nouvelle âme à charge? M'en veut-il? Me regrette-t-il? M'a-t-il déjà oublié? Ce serait le mieux pour lui, bien sûr. Tous les torts sont de mon côté. Il n'a pas de raison de s'en vouloir. C'est moi qui l'ai abandonné. Et il sait que je ne suis pas toute seule. Je lui dois les deux amours de ma vie. Richard, son éducateur. Ce garçon qui m'a tant donné et à qui mon corps a tant menti. Me réapprendre le plaisir, c'était son objectif, son obsession. Il a mis des mois avant d'oser me toucher, et des semaines à se convaincre, à tort, que je ne jouissais pas seulement par politesse. Alors, mission accomplie, il s'est consacré à d'autres nécessiteuses. C'est là que Fred Bélanger est arrivé dans ma vie. Un jour d'opération porte ouverte à l'école d'Aise. Elle s'occupait à l'époque des relations publiques de la fondation Swiss Life, qui finançait avec le Lions Club la formation de 10 chiens par an. Jules et moi faisions une démonstration de franchissement d'obstacles au fort de la Révère, sur la piste d'entraînement riche en tuyaux, échafaudages, passages piétons à feu capricieux, poubelles sur trottoir, différence de niveau et trous du jour creusés au marteau-piqueur. Le parcours changeait tout le temps, pour éviter que les chiens ne s'y habituent et remplacent la vigilance ou l'analyse par le simple automatisme. Des motos surgissaient pour nous couper la route, des déménageurs, des pickpockets. Comme l'année précédente, notre binôme avait gagné le prix du public. En me remettant mon trophée, Fred m'a serré d'un peu trop près au goût de Jules, tout en lui marchant sur la queue. Et quand elle lui a épinglé sa médaille, elle l'a piqué à travers le harnais. Son bond de côté a fait tomber du podium la remettante qui s'est cassée 3 côtes. On est allé prendre de ses nouvelles à son hôtel de Cap d'Ail. 15 jours plus tard, on la suivait à Paris. Le tourbillon, les fêtes, le rire, le bonheur à 100 à l'heure, aux côtés d'une amante incroyable, une délicieuse allumée qui connaissait la terre entière, se faisait prêter un jet privé sur un simple coup de fil pour nous emmener piquer une tête en Corse et me décrocher en cadeau de Saint-Valentin la galerie Médicis, place des Vosges, pour ma première expo. Jules avait fini par s'habituer à elle. Mais les incidents de frontières et de prérogatives étaient monnaie courante entre mes deux protecteurs. Fred renouvelait fréquemment, sans m'en parler, ses escarpins louboutins sur lesquels Jules concentrait les représailles. Je défendais mon territoire, moi aussi, à ma façon. J'étais allé vendre ma voix toute seule à RTL, sans passer par Fred, qui m'aurait décroché un contrat mirifique en échange d'un deal publicitaire avec l'une des marques de luxe dont elle assurait l'événementiel. J'étais très fier de mon SMIC, fier de pouvoir aimer gratuitement celle qui, par orgueil et peur d'être rejetée, ne s'était jamais fiée avant moi qu'aux valeurs qui s'achètent. « Ça va en bas ?» Je cache les feuilles sous un nouvel obs en répondant « oui » sur un ton rassurant. Pas envie qu'elle lise les mots tendres que je viens d'écrire sur nous en mémoire de mon chien. Je ne veux pas qu'elle s'illusionne. Je ne suis pas en train de réveiller ce que j'éprouve pour elle, mais de me regarder en face, mieux que dans une glace. Et celle que je découvre se sent piégée par la reconnaissance, l'amitié amoureuse, les remords préventifs. Fred descend dans la cabine, m'embrasse sous l'oreille. « Tu viens, chou, elles vont croire que tu leur fais la gueule. » C'est quoi cette nouvelle manie de m'appeler chou? Comme si mon ange ne cadrait plus avec le regard que je pose sur elle. « Allez, viens, le soleil est sorti, montre-toi un peu quand même. Ça serait sympa qu'on fasse un jeu avec elle pour une fois. Daphné t'a préparé un Manhattan. » Je réponds que je ne peux plus les voir. Ça m'englobe? Bien sûr que non. J'aimerais en être sûr, Alice. Elle sort en claquant la porte de la cabine. Au bout d'une minute, je range mes feuilles dans mon sac et je monte sur le pont. Je leur dois bien ça. Avec mon humeur de dog qui empire au gré des milles nautiques, je comprends tout à fait que pour elle, le seul avantage de ma guérison est qu'on peut désormais jouer à la belote à quatre.